Et c'est Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les premières synthèses du parti présidentiel La République En Marche, prélude aux conclusions du grand débat. Reportage en Seine-Maritime où le Rassemblement National mène campagne en vue des européennes. Nous serons également à Alger pour y décrire les circonstances dans lesquelles le président Abdelaziz Bouteflika a regagné le pays. Un pays en grève générale, commentaire et analyse également de l'historien Benjamin Stora. Enfin, nous rendrons hommage au cinéaste Patrick Grandperret, décédé à l'âge de 72 ans. Pluie de balançons d'étiqueter La République En Marche lors du premier intercalaire, des restitutions, des consultations engagées par le parti présidentiel dans le cadre du, je cite, « grand débat ». Cette réponse au mouvement des Gilets jaunes en pleine campagne européenne. À Chartres, quatre groupes de travail ont mis la dernière main, des synthèses dont le patron du parti, Stanislas Guérini, s'est fait le porte-parole tout à l'heure, notamment au chapitre des enjeux institutionnels. Il a évoqué la possibilité de créer une proposition de loi d'initiative citoyenne. Stanislas Guérini.
Avec le RIC, les politiques seraient en campagne permanente, au lieu de travailler pour les Français. Ils n'auraient plus à être tenus responsables de leurs actes, puisqu'ils ne vivraient plus que de promesses. En revanche, il y a évidemment urgence à trouver des moyens pour que nos concitoyens puissent être associés davantage, être partie prenante de la vie publique. Et c'est pour cela que la proposition de créer cette proposition de loi d'initiative citoyenne, je crois que c'est une juste proposition. Dès qu'un sujet mobilisera plus d'un million de nos concitoyens, alors cela déclenchera une conférence de consensus où seront réunis des citoyens, des experts, évidemment des politiques. Ils pourront se réunir et puis proposer aux parlementaires d'examiner ce projet de loi. Le Parlement se prononcera, émettra des amendements, expliquera pourquoi il adopte ou il n'adopte pas ce projet de loi. Mais c'est cela, la démocratie délibérative.
Des propos recueillis par Julie-Marie Lecomte. Et puis cet après-midi, une dizaine de ministres s'est réunie autour d'Édouard Philippe, le Premier ministre, pour une réunion de travail, un point d'étape et de calendrier avant le lancement d'une nouvelle phase. Ainsi se structure la communication gouvernementale. Au Rassemblement national, la campagne passe traditionnellement par des terres esselées. C'est la Seine-Maritime qui a trouvé grâce aux yeux des communicants du parti d'extrême droite, le pays de Bray et plus précisément sa commune de Richemont. Marine Le Pen était accompagnée de Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes, et de Gilles Le Breton, député européen. La journée a commencé par la visite d'une exploitation agricole. C'est un reportage d'Anne Fauquemberg.
Bon, vous avez mis tous mis des bottes ? Oui, je vois ça.
Oui, c'est ça, j'ai mis mes bottes. Voilà.
Allez, on a mis les bottes. Alors, je vais vous emmener là où c'est propre, quoi, on va dire. Hein.
C'est une exploitation bien exposée aux intempéries de ce dimanche qui a été visitée ce matin. Mathieu, la ferme de Patrice Martin, ses 67 hectares et ses 40 vaches laitières, ferme qui se situe précisément à Graval. L'homme est âgé d'une cinquantaine d'années, militant au Rassemblement National. Il n'a pas de problème à partager ses difficultés avec Jordan Bardella.
L'avenir d'exploitation, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas.
Et malheureusement, ce que tu décris, c'est c'est le fait de nombreux agriculteurs qui arrivent plus aujourd'hui à vivre de leur travail. Je pense qu'on gagnerait à inverser, à ce que l'importation devienne une exception et à ce que le local devienne une norme.
S'ensuit une discussion sur le patriotisme agricole. Jordan Bardella est rompu à l'exercice qu'il pratique pour la 7e fois depuis le début de cette campagne européenne. Avant de rejoindre ensuite la réunion publique à quelques kilomètres de là, à Richemont, Marine Le Pen est déjà là. Elle s'exprime devant une assemblée parsemée de gilets jaunes. La présidente du Rassemblement National se place au-dessus de la mêlée et surtout elle s'adresse à son meilleur ennemi, Emmanuel Macron.
En réalité, ce qu'il n'a pas compris, c'est que tous les Français se reconnaissent dans les revendications de justice et de dignité de ce mouvement transcourant, transpolitique, courant qui dépasse le clivage droite-gauche et reste éminemment populaire.
Donnons le pouvoir au peuple. Le slogan est d'ailleurs écrit en grandes lettres derrière elle. La présidente du RN qui finalement parle assez peu d'Europe et qui cherche à nationaliser les enjeux, ce qui résonne d'ailleurs très bien dans la salle, comme l'exprime Patrice.
Moi, j'en ai rien à foutre de l'Europe, j'ai toujours été contre l'Europe. Mais pour moi, les Européennes, c'est l'occasion de se débarrasser de Macron. C'est très simple. Si Marine fait un carton, ce que je crois, rien que la dissolution de l'Assemblée nationale, moi, ça me suffit. Parce qu'on revote des nouveaux députés et on se débarrasse de la REM. C'est évident.
La réunion publique aura duré une heure en tout et pour tout, assez court donc, mais c'était l'événement de la journée dans ce village de 400 âmes dont le maire, jusqu'ici apolitique, a décidé de prendre sa carte.
Merci à vous, Anne Fauquemberg et Christophe Papon à Richemont, en Seine-Maritime. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé ce matin, peu après le décollage, et les 157 personnes qui se trouvaient à bord ont péri dans l'accident. 7 Français figurent parmi les victimes. Des milliers d'Algériens et de Franco-Algériens ont manifesté dans plusieurs villes françaises, dont celle de Marseille, en égrénant des slogans hostiles à une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle. Abdelaziz Bouteflika qui a regagné Alger à l'instant au terme d'un séjour de 2 semaines à Genève, officiellement dédié ces semaines à des examens médicaux dits périodiques. Retour dans un pays en grève générale, une grève générale diversement suivie. Alger, Laïla Berato.
Dès la matinée, ce sont les moyens de transport qui ont été le plus touchés dans la capitale. Moins de bus et moins de taxis interrégionaux. Dans le centre d'Alger, beaucoup de commerces ont baissé le rideau, mais sur les hauteurs, l'appel à la grève générale a été moins suivi. Pourtant, on sent bien un ralentissement de l'activité. Les dimanches, premiers jours de semaine ici, sont habituellement très animés. La situation est différente dans d'autres villes du pays. À Borj-Bouareridj, la grève est importante dans la zone industrielle, tout comme dans plusieurs communes de la ville de Béjaïa, où tout semble fermé. Des messages s'élèvent sur les réseaux sociaux contre cette grève générale expliquant que cela peut affaiblir la mobilisation à long terme, mais le mot d'ordre a été lancé jusqu'à la fin de la semaine. En parallèle, les étudiants ont lancé un mouvement de protestation contre les vacances qui leur sont imposées. Les enseignants et les étudiants prévoient de se rendre dans les facultés demain, malgré la décision annoncée par le ministère de l'Enseignement supérieur de fermer les portes. Lycéens, eux, ont également manifesté aujourd'hui dans différentes villes du pays.
Grève générale, lycéens et étudiants en ébullition, défections en chaîne des syndicats, deux figures du patronat, villes et campagnes, aux quatre coins du pays mobilisés, l'Algérie vit incontestablement des heures historiques. Mayouen Bordron a joint à cet égard Benjamin Stora, historien, spécialiste du Maghreb et président du Musée de l'Histoire de l'Immigration.
L'appel à la grève générale d'un certain nombre de mouvements, d'associations de citoyens, des collectifs, est un tournant, bien sûr, important dans ce qui se passe en Algérie depuis bientôt 3 semaines maintenant. Pour l'instant, il s'agit essentiellement de la jeunesse qui manifeste, fait grève, la jeunesse scolarisée, c'est-à-dire les lycéens et les étudiants. C'est massivement, pour l'instant, la jeunesse. Mais il faut suivre, bien sûr, l'évolution de la situation, notamment pour ce qui concerne le secteur industriel et les transports. Parce que les transports, évidemment, s'ils s'arrêtent dans des grandes villes, ça risque de paralyser l'activité économique du pays.
Vous parliez des jeunes, des lycéens, des étudiants qui se mobilisaient. C'était hier, le ministère a décidé finalement d'avancer les vacances scolaires qui étaient prévues pour le 21 mars, il me semble, pour empêcher un petit peu cette mobilisation étudiante. Est-ce que au sein des lycéens se trouve finalement la contestation la plus vive ?
Le ministère, je crois, de l'enseignement supérieur a décidé de donner des vacances, disons, aux étudiants, ce qui, naturellement, a été interprété de manière très ironique par l'ensemble des étudiants et de la jeunesse en général, qui, eux, je crois, ne veulent pas prendre de vacances et décident, pour certains d'entre eux, d'occuper leur université. Donc, le pouvoir algérien va être confronté à cette question de l'occupation des locaux dans les jours qui viennent. Donc c'est une situation quand même qui devient très problématique et difficile. Les lycéens, les étudiants se considèrent qu'il faut poursuivre, disons, leur activité scolaire et universitaire, donc la poursuite des cours. Donc là aussi, on est dans une situation de rapport de force, de refus, d'affrontement entre le gouvernement actuel et la jeunesse, principalement la jeunesse scolarisée. N'oublions pas que l'Algérie, quand même, est un pays de jeunes, un pays très très jeune, et se heurter frontalement à la masse de la jeunesse va être, bien sûr, très très compliqué, d'autant que la jeunesse a reçu, dans la manifestation du 8 mars, le soutien des anciennes générations, hein, qui ont décidé de manifester. Et parmi ces anciennes générations, il y a l'ONM. L'ONM, c'est l'Organisation Nationale des Moudjahidines, ou les Enfants de Shuhada, qui sont des organisations où il y a des personnes beaucoup plus âgées, bien sûr, qui ont décidé d'apporter leur soutien, leur solidarité avec ce mouvement de la jeunesse.
Au moment où je vous parle, Abdelaziz Bouteflika serait dans un avion de retour en Algérie, donc un avion qui serait parti de Genève, donc dans la ville suisse où il était hospitalisé. Est-ce que ce retour à 5 jours de l'annonce du Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle, finalement, c'est pas un signe à interpréter ?
Écoutez, l'avion, on ne sait pas exactement qui est dedans, on ne sait pas où il va aller pour l'instant, à l'heure qu'il est, enfin à ma connaissance tout au moins. Donc c'est encore un petit peu tôt pour savoir quelle va être la tactique, la stratégie d'Abdelaziz Bouteflika, qui, ne l'oublions pas, est un homme politique, qui a beaucoup d'expérience. Donc est-ce qu'il voudra lâcher du lest, conserver le cap sur le cinquième mandat? C'est pour l'instant très tôt pour savoir exactement quelle va être sa position. Mais de mon point de vue et à ma connaissance, il n'y a pas de signe de renoncement de sa part et de son entourage. Donc on est encore dans une situation de statu quo.
L'historien Benjamin Stora avec Maïwenn Bordron. Les forces démocratiques syriennes repartent à l'offensive aux abords de Barouz et prétendent lancer là l'assaut final sur les derniers djihadistes de l'organisation État islamique retranchés dans cette localité du nord-est syrien. Au nom de la sécurité informatique, le Kremlin travaille à un projet de loi qui installe un Internet dit indépendant. Un pas de plus vers, je cite les défenseurs de la liberté sur Internet, vers une anti-utopie à la George Orwell. Ils étaient 15 000 opposants à ce texte cet après-midi dans les rues de Moscou. Jean-Didier Revoin.
Pour les autorités russes, le projet de loi adopté le 12 février dernier en première lecture par la Douma, le Parlement russe, a pour objectif d'assurer le fonctionnement d'Internet en Russie en toute autarcie. En clair, garantir à l'aide des infrastructures russes qu'Internet fonctionne dans le pays, même si la Russie devait être déconnectée du reste de ce réseau mondial. Une mesure dictée, selon les auteurs du projet, par la nature agressive de la stratégie nationale américaine en matière de cybersécurité adoptée en septembre dernier, mais au vu des durcissements apportés par les autorités russes à la liberté d'expression sur Internet et sur les réseaux sociaux ces derniers mois, ce projet de loi a provoqué une levée de boucliers. En effet, ses détracteurs estiment qu'il a pour but principal d'empêcher les sites russes de fonctionner grâce à des serveurs étrangers, de contrôler les contenus mis en ligne et d'isoler progressivement l'Internet russe. La messagerie instantanée Telegram, que les autorités russes ont essayé de bloquer à plusieurs reprises sans toutefois y parvenir, a même fait savoir qu'en isolant l'Internet russe, les autorités pourraient par la suite bloquer les réseaux sociaux et messageries étrangers. Ce projet de loi doit maintenant être discuté en deuxième lecture, mais difficile d'imaginer que les quelques milliers de manifestants à être descendus dans les rues de la capitale et de plusieurs grandes villes russes cet après-midi pourront infléchir de façon déterminante l'inclination au contrôle d'Internet qui est celle des parlementaires russes.
Jean-Didier Revoin à Moscou. Sa bande, Jean-François Stévenin, Claire Denis, sa référence, Jean Rouche. Un film, un seul peut-être parmi quelques autres étranges merveilles. Mona et moi, featuring Johnny Sanders, post New York Dolls, Patrick Grandperret est mort. Et Sylvie Piala lance immanquablement, il faisait partie de ces gens indispensables, Manon Claverie.
Patrick Grandperret fait ses armes comme assistant de Maurice Piala sur les tournages de Passe-t'en-Bac d'abord et Loulou. La femme de Maurice Piala, Sylvie, s'en souvient d'ailleurs. En 2006, elle lui propose de reprendre avec elle un projet avorté de son mari. Le film s'appelle Meurtrière et il raconte la virée tragique de deux adolescentes tout juste sorties d'un asile psychiatrique. Il est présenté à Cannes dans la section Un certain regard la même année. Dans son œuvre, Patrick Grandperret n'oublie jamais de mettre en avant les laissés pour compte, comme dans Mona et moi, récompensé du prix Jean Vigo en 1990, où il plonge dans le Paris des punks et des squatteurs. Le réalisateur et producteur était aussi passionné par l'Afrique. Il consacre au continent trois de ses films, dont L'Enfant Lion en 1993, qui le révèle au grand public. C'était une personnalité extraordinaire qui, d'après Sylvie Piala, a énormément compté dans le monde du cinéma.
Merci à vous, Manon Claverie. Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Le temps de demain, lundi, instable sur le nord-est est marqué par un vent très fort sur les Alpes et la Corse, des averses de la Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que l'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia.